registre de collaboration internationale en ligne entre apprenants et éclairage apporté par la recherche se cache donc un autre terme qui s'appelle télécollaboration. Je vais expliquer plus en détail ce que c'est. Et pour démarrer, pour me situer très rapidement, un peu en complément de ce qui a déjà été dit tout à l'heure, donc j'ai fait des études de lettres modernes, allemand, français, langue étrangère, anglais, ingénierie de formation, sciences de l'éducation, j'ai déjà dit sciences du langage, et en parallèle déjà enseignante d'allemand pendant pas mal d'années, et puis ensuite maître de conférence à Grenoble à l'UGA en didactique de l'allemand, et j'y suis toujours, mais sur un autre poste, qui est donc le poste de professeur des universités de didactique des langues et ingénierie éducative numérique. Et mes recherches et publications, je pense que Laurence a déjà donné les termes tout à l'heure, donc sur l'accompagnement, la scénarisation, l'apprentissage, enseignement des langues, la télécollaboration, entre autres. Et l'ouvrage qui a été mentionné, c'est celui-là, Formation hybride en langue articulée, présentielle et distancielle. Je suis rédactrice en chef aussi de la revue ALSIC, Apprentissage des langues et systèmes d'information et de communication. Donc, de quoi est-ce que je vais parler là? Donc, je vais d'abord définir la télécollaboration pour situer ce type de pratique-là, donner des exemples, parler ensuite du projet de recherche Engage, et donc, il y a un projet avec un financement franco-allemand. Et présenter quelques résultats saillants émanant de ce projet-là. Je me suis permise de ne pas faire une vraie partie théorique parce que ce sont des aspects tellement variés et divers qui sont abordés que ça n'aurait pas fait grand sens. Et du coup, je vous laisserai le soin d'aller sur notre site parce que je présenterai une partie aussi directement à partir du site qu'on a créé où le reste est indiqué. Donc ça existe, mais pas forcément dans cette présentation-là au niveau des aspects théoriques. Donc, pour définir d'abord ce que c'est, donc la télécollaboration, ce sont des interactions qui se déroulent entre des apprenants de différents établissements. Donc, ces établissements se situent en principe dans des endroits différents, voire des pays en général différents. Et donc, en ligne, les étudiants, enfin les apprenants, parce que ça peut être à tout niveau d'enseignement, en fait, vont travailler en petits groupes en général, la plupart du temps. Et ça va durer, donc c'est pas juste quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose qui dure sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois en général. Et en tout cas, dans le cas de figure qui est pris en considération là, ça s'inscrit dans des cours, dans un établissement et dans l'autre, voire dans les autres, parce qu'il peut y avoir plusieurs partenaires. Ici, je donnerai des exemples de deux partenaires, mais ça peut aller jusqu'à 10-12 partenaires pour des projets de très grande envergure. Et donc, ce sont les enseignants, la plupart du temps, qui créent les projets, ou alors qui reprennent un projet qui existe déjà, qui le mettent en place ensemble, qui le planifient et qui l'accompagnent aussi jusqu'au bout, y compris les activités de débriefing, les activités réflexives qui ont lieu à la fin et qui vont donc se coordonner tout le long pour faire ça. Ce sont bien sûr des projets qui ont des objectifs pédagogiques, sinon on ne les mettrait pas en place. Donc, ça peut être des objectifs souvent langagiers, interculturels. Lié au cursus, donc ça peut être en biologie, ça peut être en littérature, ça peut être en traduction, en chimie, vraiment plein d'orientations possibles. On les a appelées ici professionnalisantes ou encore des objectifs transversaux, mais sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Donc pour donner deux exemples, du coup, je m'évade sur le site qu'on a mis en place pour présenter les résultats du projet. Le premier exemple, c'est celui de la WWUGA, ou U, comme vous voulez, c'est la Westfälische Wilhelms Universität Münster, qui a été renommée en Universität Münster très récemment, et l'UGA, donc un projet franco-allemand, qui dure donc 12 semaines et s'inscrit en LANSAD, langue pour spécialistes d'autres disciplines. Donc pour les uns en Allemagne, un cours de français et en France, un cours d'allemand, donc de niveau intermédiaire B1, B2, avec des objectifs à la fois langagiers et interculturels, donc dans un système de tandem, c'est-à-dire que les deux langues sont pratiquées, en gros à moitié de temps l'un ou moitié de volume l'un, si c'est par écrit, et moitié, enfin l'une, pardon, et moitié l'autre, et les étudiants vont donc être amenés à se corriger, à s'aider, à s'exprimer, à s'entraider. Donc chacun vit ans d'apprendre la langue de l'autre. Et sur le thème Le monde d'après, donc avec une production de sondages et de micro-trottoirs qui sont présentés par la suite dans un genre de talk show, de présentation organisée conjointement. Dans l'itération qui est en question ici, il y a eu 21 étudiants, donc 12 en Allemagne et 9 en France, avec des petits groupes. Donc bon, vous voyez que les nombres ne sont pas exacts, mais pour la plupart des groupes, 2 étudiants de chaque université, avec des interactions synchrones, donc par visioconférence, et asynchrones aussi. Donc, juste pour vous donner un aperçu de comment enfin, se déroule ce type de projet. Donc, d'abord, toujours le brise-glace, la mise en relation. C'est important que les apprenants, comme ils doivent travailler en petits groupes, qu'ils apprennent à se connaître pour avoir cette confiance aussi de s'exprimer, de ne pas être critiqué, parce que c'est très demandeur par la suite de collaborer autour des tâches qui sont demandées. Donc, il faut quand même qu'ils osent aussi le faire. Ensuite, un échange sur les préoccupations quant à l'avenir. Donc, basé sur des questionnaires de type Cultura. Cultura est un des ancêtres de projets ancêtres au fait de la télécollaboration, où il s'agit par rapport à des mots-clés ou des phrases clés ou des situations de réagir, de donner ses réactions tout au début. Donc, on collecte ces réactions données par tous les participants à la télécollaboration, en distinguant aussi entre les différents pays et de manière anonymisée, on met à disposition les réponses. Et donc, du coup, les étudiants analysent les réponses des uns et des autres sans savoir qui a dit quoi, donc de manière comparative, voir aussi quels sont les dénominateurs communs et les différences qui peuvent émerger, et aussi la manière de s'exprimer des uns et des autres. Pour arriver ensuite à un projet collaboratif, donc sur la base d'interviews qu'ils ont élaborées, qu'ils ont conduites réellement dans les deux pays, ils vont combiner les résultats et les analyser, les présenter ensemble, justement. Les enseignantes et créatrices de cette télécollaboration sont Catherine Felsch et Chloé Néret, que vous voyez sur la mini-photo qui s'affiche dans le rond bleu. Donc, l'autre exemple, c'est une télécollaboration qui s'appelle VE Task Design. Donc, VE, c'est Virtual Exchange, qui est le terme en anglais, en fait, pour télécollaboration. Enfin, le terme qu'on utilise aujourd'hui. Cette fois-ci, entre l'UGA et le Brésil, donc UNESP à Rio Preto, toujours une durée de 12 semaines, et cette fois-ci, c'est une télécollaboration en langue véhiculaire, donc en anglais. C'est la langue du pays, d'aucun des deux pays, où il s'agit donc d'un côté de futurs enseignants d'anglais et de l'autre de futurs concepteurs pédagogiques numériques en langue. Donc anglais ou n'importe quelle autre langue en réalité. Donc les derniers sont à Grenoble et les premiers sont au Brésil, qui vont travailler ensemble autour de l'élaboration d'une tâche de brise-glace pour la télé, donc pour l'itération de cette télécollaboration de l'année suivante. Donc ils conçoivent une tâche qui va réellement être mise en place l'année d'après. Dans l'itération qui est prise en considération ici, il y avait 15 étudiants de l'UGA et 23 de l'UNESP, donc avec des groupes pour la plupart de 5 étudiants, 2 à l'UGA et 3 à l'UNESP, toujours avec des interactions synchrones et asynchrones, donc Zoom, WhatsApp, Moodle, enfin des forums, des Padlets, des outils relativement simples et le plus simples possible. Avec des étapes qui se suivent, donc toujours un brise-glace, donc celui qui a été conçu, créé par les étudiants de l'année précédente, un travail sur quelle est la base de notre travail d'équipe, donc qu'ils mettent vraiment, enfin, ils élaborent ensemble les règles, leur propre travail d'équipe, ce qui est jugé être dans les résultats qu'on a obtenus, être quelque chose d'extrêmement important pour eux, parce que ça les aide. Ils analysent ensuite des brise-glaces existants pour voir quels sont les critères pour un brise-glace réussi. Ils vont ensuite travailler, donc chaque groupe choisit un outil qui est fréquemment mis en place dans une télécollaboration, donc du type de ceux que j'ai mentionné tout à l'heure, et chaque groupe va en analyser un, ils sont potentiels pour ce type de situation pédagogique-là, mais aussi les limites potentielles. Ensuite, ils vont donc concevoir leur tâche de brise-glace. Dans une première version, il y aura une lecture par certains autres étudiants qui n'ont pas travaillé dans ce groupe-là et qui vont donner un feedback constructif pour qu'ils puissent améliorer cette version. Et donc, c'est la deuxième version qui va être la version finale sur laquelle chacun va voter Donc, avec un argument, il va voter pour quelle est la tâche qu'il pense être la meilleure pour l'année d'après. Évidemment, ils n'ont pas le droit pour voter, de voter pour celui de leur propre groupe, parce que sinon, on n'aurait pas un vote très équitable. Et donc, c'est le gagnant, le brise-glace gagnant qui est vraiment mis en place l'année d'après. Et ensuite, donc, une séance de débriefing final où ils se mettent tous autour de leur visioconférence, table, pour débriefer sur la télécollaboration qui a eu lieu. Et cette fois-ci, c'est donc Solange Aranya et parfois Suzy Spati en fonction des, enfin Cavallari, pardon, avec qui travaillent avec nous certaines années, mais pas celle-ci, et moi qui mettons en place cette télécollaboration qui existe au total depuis une dizaine d'années avec le Brésil. Ça va être la sixième année qui démarre. Donc le projet de recherche dont je vous proposais de parler s'appelle Engage, son vrai nom en long est collaboration interculturelle dans les échanges en ligne, favoriser engagement et agentivité dans et au-delà de ces échanges, qui était donc financé par l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'OFAJ, et qui a duré 2 années. C'est terminé là en décembre 2023 entre l'Université Grenoble-Alpes, plus exactement le LIDILEM et le Sprachenzentrum, qui est aujourd'hui donc l'université Münster et qui était, comme déjà dit au préalable, la Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Et les participants, c'était un petit groupe, donc très agréable. Les autres personnes qui ont participé sont Catherine Felsch, Chloé Néret et Lada Achilova. Alors, on s'est basé sur un recueil de données dans les deux télécollaborations que je vous ai présentées, plus une troisième que je n'ai pas présentée ici pour question de temps. Au total, nous avons obtenu 78 réponses valides, donc d'étudiants qui ont rempli à la fois le pré-questionnaire et le post-questionnaire. Nous avons encore recueilli d'autres données tout au long. Donc, il y avait les portfolios pour un certain nombre d'étudiants. Et nous avons également réalisé des entretiens semi-guidés auprès de 15 étudiants après, donc 5 mois après la fin de leur télécollaboration. Et nous avons aussi pris en considération des textes réflexifs qui étaient rédigés juste après la fin de la télécollaboration. Donc, au total, avec des données quantitatives sur échelle de Likert, donc ces échelles qui vont de 1, non, je suis pas d'accord du tout, à 5, oui, je suis tout à fait d'accord avec l'item par rapport à qu'ils réagissent. Et puis, donc, des réponses à des questions ouvertes, et donc les textes réflexifs et aussi la transcription des entretiens qui ont été analysés avec une analyse thématique de contenu et des analyses statistiques qui ont été conduites sur les données quantitatives par Nicolas Rocha. Alors ça risque d'être un tout petit peu petit, juste pour vous dire les analyses, des catégories d'analyses que nous avons utilisées. Donc autour de la télécollaboration, quelles étaient les attentes des apprenants par rapport à ce type de pratique? Quels étaient les attraits? Quelles étaient les appréhensions aussi? Quels étaient les apports? Est-ce qu'ils sont allés au-delà de ce qui leur a été donné et demandé? Quels étaient les points de satisfaction et d'insatisfaction? Et puis, nous avons regardé aussi les différents types d'engagement qui se sont manifestés et les différents types de présence sociale. La présence sociale, c'est quand les apprenants ont vraiment l'impression d'établir un groupe, d'arriver à s'exprimer sans prendre de risque et de perte de face ou autre à chaque fois qu'ils prennent la parole et d'arriver à collaborer et de travailler ensemble. Donc, je ne vais pas aborder tout ça, mais je vais aborder une sélection. Donc le tout est disponible sur ce que là je vais partir sur notre site en fait, pour présenter à partir de là. Donc tout est disponible à partir du petit lien qui s'affiche en bas sur un carnet hypothèse de télécollaboration. Et je vais donc aborder les apports perçus de la télécollaboration, les facteurs qui favorisent l'engagement et les prolongements au-delà de ce cadre donné dans la télécollaboration que mettent en place les étudiants. Je vais donner quelques résultats saillants, je ne vais pas tout présenter en détail. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus, tout est disponible sur la page. Donc, les apports perçus des étudiants par les étudiants de la télécollaboration. Donc, on peut au fait se rendre compte. Donc, ici, ce sont les résultats qui vont s'afficher des réponses ouvertes seulement. Donc, ce sont les nombres de personnes qui ont mentionné ce type de compétences, qui ont vraiment mentionné dans leur réponse ouverte ce type de compétences. Donc, c'est avant tout les aspects interculturels. Donc, ouverture interculturelle, aller plus vers l'autre, se sentir plus à l'aise dans une communication avec des personnes d'autres cultures aussi, des aspects comme ça, qui sont mentionnés le plus souvent. Ensuite, ce sont les compétences langagières et les compétences professionnalisantes, ou autrement dit, liées de près à leur cursus. Ce sont les réponses qui apparaissent le plus souvent, et quelque part, c'est aussi les compétences qui sont mentionnées dans les objectifs pédagogiques qui décrivent les cours. Donc, on se rend compte qu'ils sont le plus conscients des compétences qui sont déjà déclarées par les enseignants quelque part. Ça ne se recoupe pas à 100%, mais c'est quand même assez frappant. Mais il y a aussi plein d'autres aspects qui apparaissent et qui ne sont pas explicités dans les objectifs, comme le développement personnel, j'y reviens, les compétences collaboratives, arriver à travailler en équipe, alors que, par exemple, les futurs ingénieurs pédagogiques numériques à Grenoble, ils travaillent beaucoup en équipe, mais ici, on les amène à travailler sur comment le faire et à observer les règles, à rapporter les problèmes, à réfléchir sur les solutions. Et ils déclarent donc ensuite qu'ils développent ce type de compétences-là, même aussi dans les autres télécollaborations où c'est pas aussi explicité que ça. La confiance langagière, j'y reviens dans un instant. Donc, les compétences communicatives de manière plus large, ils se sentent plus à l'aise pour communiquer et pas seulement liées à la langue. Des relations interpersonnelles qui se développent, compétences numériques et des compétences méthodologiques. Donc, les compétences interculturelles sont surtout visibles à travers les mentions dans les réponses ouvertes, ce sont les réponses textuelles. Donc, dans beaucoup d'autres télécollaborations et beaucoup d'autres études sur la télécollaboration, on a du mal à vraiment mesurer les évolutions entre le pré et le post-test dans les déclarations de compétences interculturelles, parce que très souvent, les étudiants se surestiment au début. En fait, ils pensent que comme ils n'ont pas trop l'habitude de travailler avec des personnes d'autres cultures, ils se surestiment souvent. Donc, ils donnent des indications de très fortes de compétences. Donc, par exemple, je sais travailler avec des personnes d'autres cultures, ils mettent un score assez élevé. Et ils se rendent souvent compte, une fois qu'ils doivent le faire, c'est pas si facile que ça, il y a quand même des obstacles. Donc il y a quand même un mini progrès, mais il n'est pas statistiquement significatif et encore pas pour tous. Donc, encore une fois, on le voyait plus dans les déclarations ouvertes des apprenants. Mais il y a aussi beaucoup, donc ce que je voulais surtout montrer ici aussi, ce sont les compétences langagières qui se développent. Donc ils se sentent. C'est leur déclaration sur ces échelles de Likert que j'abordais tout à l'heure. Ils déclarent plus à la fin qu'au début de la télécollaboration, arriver à comprendre les partenaires au niveau langagier, arriver à s'exprimer avec une plus grande fluidité, une plus grande variété lexicale, arriver mieux à communiquer, argumenter dans la langue qui est donc pratiquée. Et puis, en même temps, il y a une diminution de la peur de faire des erreurs. Et ils ont moins peur de ne pas arriver à se faire comprendre. Donc, c'est vrai, quand on rentre dans ce genre de pratique-là, en fait, on a des étudiants qui sont extrêmement stressés avant la première séance. Ils ont peur, ils ont envie de bien faire, et ils ont aussi peur d'être jugés, de ne pas y arriver, que leur niveau de langue n'est pas bon, et même s'ils ont fait de la langue pendant très longtemps. Et là, tout d'un coup, on a cette peur qui baisse, ils se rendent compte que, si, on y arrive, et justement, je vais y arriver après. Plus le groupe aussi est compréhensif et les aide, plus tout le monde se concerte pour mettre en place des règles, pour que tout le monde a le droit à la parole, etc. Donc plus cette présence sociale finalement établie, plus aussi ils se sentent à l'aise et plus cette peur tend à diminuer. Elle ne diminue pas entièrement ou elle disparaît pas entièrement dans tous les cas, mais elle a cette tendance-là. Donc cette confiance langagière, arriver à s'exprimer et à se faire comprendre dans la langue augmente de manière significative entre le pré et le post-questionnaire. Donc, comme le dit cette citation-là, cela m'a fait déconstruire les représentations que je me fais. Avant de suivre ces télécollaborations, il était impossible pour moi de m'exprimer dans une langue comme l'anglais. J'ai un niveau intermédiaire, mais je n'osais pas parler, surtout avec des personnes que je ne connais pas. Aujourd'hui, je sais que je peux me faire comprendre, mener une conversation en anglais et discuter avec des personnes que je ne connais pas. L'autre compétence que je voulais aborder ici, parce qu'elle est aussi très représentée, donc ce sont ces compétences professionnalisantes. En gros, ce sont deux télécollaborations qui s'adressent à de futurs, enfin, trois des partenaires de ces deux télécollaborations sont de futurs enseignants de langue ou de concepteurs donc e-learning en langue. Et pour cela, surtout, ce qui a évolué, c'est la capacité et l'aisance à concevoir des activités pédagogiques sans ou avec le numérique, ou alors des compétences justement de scénarisation spécifiques à la télécollaboration. Ils ont aussi d'autres cours. Donc tout n'est peut-être pas lié à la télécollaboration, mais n'empêche, on observe cet effet-là. Et aussi la familiarisation, pardon, avec des interactions en ligne dans un cadre d'enseignement. Donc, surtout depuis le Covid, tout le monde a pu se rendre compte à quel point ça peut être utile, ce type de compétences-là. Par rapport aux compétences restantes, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Sauf le développement personnel. Donc, là, il y avait la compétence de collaboration, communication plus large dont j'ai déjà parlé. Le développement personnel, qui est le fait d'avoir gagné en confiance en soi, parce qu'ils sortent de leur zone de confort, en fait, dans cette télécollaboration. Et du coup, ils affrontent de nouveaux défis et ils ont du coup moins peur de se tromper, moins peur d'affronter l'inconnu, justement, moins peur par rapport à l'incertitude. Ils développent plus d'empathie et d'acceptation de divergences et déclarent aussi avoir plus de qualité organisationnelle. La télécollaboration est aussi pour beaucoup une opportunité d'interaction à l'international. Ils n'ont pas tous l'opportunité, et même ceux qui sont étudiants en langue n'ont pas forcément l'opportunité ou ne saisissent pas l'opportunité de discuter à l'international, que ce soit sur les réseaux ou en direct, en présence physique avec d'autres personnes. Donc, pour beaucoup, cette occasion-là, donc ça ne remplace pas le fait de vouloir aller dans l'autre pays. Au contraire, pour certains, je vais y venir après, pour certains, ça éveille cette envie encore plus d'aller voir l'autre pays ou d'autres pays de manière plus générale. Et pour les relations interpersonnelles, beaucoup vont tisser des liens d'amitié, donc qui vont durer ou non vraiment à la fin de la télécollaboration, mais qui sont bel et bien existants, en tout cas en déclaration à la fin. Ces apports dépendent dans ce type de pratique de l'engagement des apprenants, l'engagement dans les interactions, l'engagement dans les tâches, parce que c'est une pratique socio-constructiviste où on base l'apprentissage sur le fait que les apprenants interagissent entre eux, collaborent autour de la réalisation de tâches. Et donc, comme déjà dit, pour ça, pour que ces interactions puissent avoir lieu, le groupe aussi doit se constituer, sinon l'apprentissage ne se fera pas, ça ne peut pas avoir lieu de manière individuelle dans ce type de dispositif. Donc, l'engagement doit bien exister dans les deux, dans la tâche et dans les interactions. Et pour que cet engagement, donc déjà, est-ce qu'il s'engage, est-ce qu'il déclare s'être engagé, oui, non, si oui, de quel type d'engagement est-ce qu'il s'agit et quels sont donc les facteurs qui influencent cet engagement? C'est un peu ça les questions qu'on s'est posées. Alors, on a regardé l'engagement comportemental, qui est le degré d'implication observable dans la réalisation des activités pédagogiques ou comportement observable en termes d'attention, d'effort et de persévérance. Donc, on s'est avant tout basé sur les travaux de Fredericks et collègues et de Reeve. L'engagement cognitif, qui est donc l'effort mental mis en œuvre, la mobilisation de ressources cognitives pour la réalisation des tâches et ou la gestion des interactions. L'engagement lié à l'affectif, qui transparaît quand une activité pédagogique est facilitée ou inhibée par les émotions, qu'elles soient positives, comme l'intérêt, la curiosité ou l'enthousiasme, ou négatives, comme le stress, la colère, la frustration ou l'anxiété. Et puis, donc ça, ce sont trois types d'engagement fréquemment distingués. On a distingué un quatrième, qui est donc l'engagement agentique, qui est la contribution constructive et proactive des apprenants à leur formation, parce qu'ils la personnalisent, ils cherchent à améliorer les conditions dans lesquelles ils travaillent et apprennent. Donc, on peut voir dans les déclarations des étudiants que c'est avant tout l'engagement agentique qu'ils ont mis en place, donc leur proactivité, trouver des solutions quand il y avait des obstacles ou quand ils ne savaient pas comment travailler ou pour s'organiser. Ensuite, l'engagement comportemental, celui lié à l'affectif et l'engagement cognitif. Et puis les déclarations chiffrées montrent aussi que, enfin, on n'a pas pu faire de comparaison de pré-poste parce que ça faisait pas sens. On ne peut pas comparer quelque chose après à quelque chose qui n'a pas encore eu lieu avant. Donc on voit que oui, pour le comportement, l'engagement comportemental et cognitif, ils déclarent tous être fortement investis. Et au niveau des interactions et au niveau des tâches et au niveau comportemental, cognitif, agentique et donc affectif. On peut se dire, bah oui, mais c'est des gens qui déclarent que forcément ils veulent être bien vus. Il peut y avoir ce biais-là, mais n'empêche que à peu près tout le monde dit aussi que les partenaires aussi se sont bien engagés. Donc ça veut quand même dire qu'il y a un vrai fond de vrai. Ça n'est pas juste une envie de plaire à l'enseignant et d'avoir peur de dire non, j'ai pas forcément si bien travaillé. Alors, c'est pas si systématique et justement, ça veut dire aussi que les télécollaborations ont bien roulé, ont bien tourné parce que c'est, on a fait d'autres projets de recherche où parfois il y a eu des variations beaucoup plus importantes dans les déclarations. Que là, ça reste une moyenne. Hein, tout le monde n'était pas absolument engagé non plus. Mais surtout, justement, de quoi dépend cet engagement. Donc ça aussi, on a pu le voir à travers leurs déclarations, les entretiens, etc. Donc ce qui l'influence positivement, c'est avant tout le groupe lui-même. Donc est-ce que le groupe, les membres du groupe font tout en faveur de l'intégration des uns et des autres? Là, vous voyez sur le côté vert, ça va en ordre descendant, c'est-à-dire que l'élément le plus mentionné, c'est celui qui est en haut, donc le groupe. Ensuite vient la conception, la scénarisation du cours. Est-ce que c'est bien conçu? Est-ce que le rythme temporel convient? Ensuite, l'intérêt des étudiants pour le thème qui est abordé dans cette télécollaboration. Ensuite, le fait de dire ben, j'ai la volonté et je pense pouvoir apprendre à travers cette télécollaboration. L'aspect suivant, c'est celui de vaincre sa timidité. Donc, beaucoup disent au début, ben, je suis très timide, j'ai peur. Et puis, d'avoir l'impression d'arriver à vaincre cette timidité à travers la télécollaboration est donc aussi un très fort facteur d'engagement. L'évaluation, bien sûr, est-ce qu'elle vise, enfin, ce qu'on donne à faire aux apprenants et ce sur quoi ils sont évalués, c'est un fort facteur d'engagement aussi. Donc, c'est toujours important de bien réfléchir ce qu'on évalue. Ça reste toujours une difficulté aussi, mais. Le fait qu'ils considèrent que cette expérience est quelque chose de nouveau ou d'authentique ou de concret, et puis la rencontre avec l'autre. Inversement, donc ce qui inhibe l'engagement, ça va être une charge de travail qui est importante, mais aussi ce qui est mentionné surtout en dehors de la télécollaboration, s'ils ont des études par exemple très chargées ou ils ont un travail rémunéré à côté. Des dates limites qui sont trop serrées. Une plateforme qui parfois ils jugent pas absolument ergonomique, ils ont du mal à se retrouver du coup. Lorsque il y a un leadership inadapté dans les équipes, dans les groupes, donc par exemple quelqu'un qui prend le lead dans une équipe et qui n'incite pas forcément tout le monde à bien participer, mais qui va plutôt de l'avant pour réaliser la tâche, mais sans vraiment s'assurer que les autres soient là et raccrochent les wagons et participent. Quand les partenaires ne s'engagent pas, ça inhibe l'engagement des étudiants eux-mêmes. Et cette peur de s'exprimer en langue étrangère, donc qui peut quand même exister, bien sûr, mais persister. Et puis, il y a des éléments qui sont corrélés, c'est-à-dire plus ils sont hauts, plus l'engagement va être haut aussi, plus ils sont faibles, plus l'engagement va être faible aussi. Donc là, ce sont des tests statistiques qui ont pu le montrer et qui sont. Le sentiment de la capacité à savoir organiser et gérer un travail en groupe, mais aussi la satisfaction générale par rapport à la télécollaboration. Donc, en gros, plus un étudiant est engagé, plus il est satisfait, et plus il est satisfait, plus il est engagé. On ne sait pas ce qui est la cause, mais ça va vraiment de pair. Et pareil pour bah, j'arrive à organiser et gérer un travail en groupe. Ah oui, je ne vais pas vous montrer les vidéos ici parce que le temps nous manque, mais il y a des petites vidéos et des témoignages d'étudiants dans chacune des capsules qui sont fort sympathiques, que vous pouvez aller voir si vous voulez. Et donc le dernier aspect que je voulais aborder brièvement, c'est celui des prolongements au-delà du cadre de la télécollaboration. Donc, on leur donne un cadre. On leur dit, ben, voici votre tâche, voici votre calendrier, voici la durée que ça doit faire, voici les outils. Hein, pour certains, ils peuvent les choisir. On n'impose pas tout, mais il y a bien sûr un cadre qui est donné parce qu'on veut qu'ils travaillent, que ça se fonctionne bien, etc. À l'intérieur de ce cadre, donc il y a ce cadre qui est prescrit. C'est celui de vraiment, ce sont les enseignants qui donnent les choses à faire. Donc les modalités d'interaction, les tâches qui sont à faire, les objectifs qui sont visés. Mais il y a aussi un cadre qui est co-construit entre les apprenants, donc qui va pas être exactement le même. Par exemple, quand ils disent, bon, ben là, comment on fait? Comment on fait pour réaliser ça? À quel moment est-ce qu'on se rencontre? Moi, je propose telle autre solution. Donc, par exemple, les solutions organisationnelles, ça va déjà être eux qui prennent des initiatives, mais on le demande aussi. Enfin, on le demande, mais c'est quand même pas exactement dans la tâche, non, compris dans la tâche donnée non plus. Et puis, il y a ce qui va vraiment au-delà. Donc, qui va plus loin que ces deux cadres-là, cadre prescrit et le cadre co-construit. Par exemple, des questionnements qui vont émerger, des projections dans le futur, ou des relations interpersonnelles, justement, qui pourraient émerger. Et c'est ça que nous avons regardé. Et effectivement, à travers la télécollaboration, on peut se rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent. Notamment, quand on regarde dans le post-questionnaire les items suivants, la volonté de donner une suite à l'expérience de télécollaboration, l'intention de maintenir le contact avec les partenaires une fois que le projet est terminé, et la perception d'avoir pu développer des compétences pouvant être réinvesties. Quand on regroupe ces éléments-là, on peut observer une corrélation à nouveau avec la satisfaction qu'ils ont eue par rapport au projet, la perception de leur propre engagement, les libertés et les choix qu'ils ont perçus. Donc, ça veut dire aussi que plus on donne de liberté et de choix cadrés, parce qu'on ne veut pas non plus que ça parte dans tous les sens, plus ils s'en saisissent déjà, mais plus ils ont aussi ils prennent des responsabilités et vont vraiment au-delà. Et l'aisance à échanger avec des personnes d'une autre culture et l'autre aspect qui est corrélé. Donc ça, ces prolongements ou cet au-delà se manifestent de différentes façons. Il y a des compétences qui sont considérées comme étant utiles pour le futur. Donc vous allez revoir certains des apports enfin, certaines compétences qui sont déjà apparues comme des apports tout à l'heure. Mais ici, c'est vraiment une déclaration spécifique des étudiants de cette compétence me sera utile pour le futur. C'était vraiment un autre item. Et c'est vraiment des choses déclaratives, donc dans les réponses ouvertes. Ce n'est pas des cases à cocher. Donc, avant tout, les compétences collaboratives qui pensent être utiles pour le futur, les compétences professionnalisantes, donc tout ce qui peut être lié à la discipline. Langagière, ça n'était pas dans tous les cas non plus un objectif, mais ça apparaît donc aussi comme cette chose qui va leur être utile pour le futur. L'aspect interculturel, donc s'ouvrir, avoir plus d'empathie, s'ouvrir aux autres, s'intéresser aux autres cultures, etc. Donc les autres éléments qu'on a déjà vus tout à l'heure. Ils vont aussi avoir des questionnements, donc soit nouveaux, soit qu'ils approfondissent, soit qu'ils sont extérieurs au cours qui vont apparaître. Donc, ils vont interroger et s'interroger, avoir des réflexions personnelles qui vont aller au-delà de ce cadre, des tâches qui sont données. Par exemple, ils vont interroger leur propre attitude face à des enjeux sociétaux comme l'environnement, le nucléaire, l'engagement politique. Lorsque la télécollaboration a abordé ces choses-là. Par exemple, cette citation, la discussion et les réflexions communes concernant la question quels aspects appartiennent à l'identité, est-ce que c'est seulement la carte d'identité? Parler de ça et réfléchir ensemble ce qu'on peut faire pour créer un monde plus tolérant et ouvert aux autres a enrichi ma vie énormément. Ou encore, ils vont considérer des compétences, on a pu observer, pardon, des compétences qui s'inscrivent dans le cadre de référence pour les compétences pour une culture de la démocratie, donc ouvrage qui est établi par le Conseil de l'Europe, comme par exemple le respect de l'autre, l'esprit critique, la responsabilité, la tolérance de l'ambiguïté, j'en ai déjà parlé, le sentiment d'efficacité personnelle, la souplesse et l'adaptabilité, la résolution de conflits, plein d'aspects comme ça qui s'inscrivent dans un cadre qui est visé de manière plus large et plus exactement européen. Et puis donc les projections professionnelles, relationnelles ou personnelles. Donc j'ai déjà parlé des relations amicales. Beaucoup de ces étudiants vont dire à la fin de la télécollaboration, oui, je pense qu'elle va que je vais rester en contact avec les autres. Parfois ça va être le cas, parfois non. Mais donc on voit bien que on leur demande de travailler sur la tâche. On leur demande aussi d'aller un peu à côté parce qu'il faut qu'il y ait une bonne ambiance qui s'établisse. S'ils n'ont pas envie de venir, envie de travailler ensemble, ça ne se passera pas forcément bien. Et parfois, ça va plus loin. Parfois, ça va vraiment jusqu'à des liens d'amitié qui parfois durent, une fois. Par exemple, comme le montre cette citation, I can say that one benefit to this telecollaboration project is that I made a few new friends. As a side note, I have also created a Discord group with Maria, Marina and Marcus in the hopes that we might be able to chat and perhaps play some online games together in the future. Donc, ils mettent vraiment en place des choses pour que ce futur existe. Donc, il y a ces relations interpersonnelles, une volonté pour certains aussi de réitérer une expérience de télécollaboration. Certains vont vouloir aussi aller voir le pays, les personnes dans le pays partenaire, aller faire des études dans le pays partenaire, et ça en tant que résultat de ce projet auquel ils ont participé. Et je terminerai sur cette corrélation-là. Donc, la présence sociale, j'en ai déjà parlé. Quand on prend les trois items qui sont dans l'encadré bleu ensemble et les trois items qui sont dans le rond rouge, donc à gauche c'est la présence sociale, à droite le dépassement du cadre justement qui est mentionné, là encore c'est corrélé. Donc à nouveau, on voit que plus la présence sociale, donc cette ambiance favorable dans le groupe qui est là et qui est favorable à une collaboration, une communication sur des bonnes bases et des bases bienveillantes, plus les apprenants vont arriver à dépasser le cadre et vice-versa. C'est vraiment lié. Donc cette ambiance dans le groupe, elle est vraiment indispensable. Et pour revenir sur la remarque de tout à l'heure, c'est là justement aussi, bah, déjà les enseignants, ils font beaucoup, ils donnent beaucoup de liberté, mais il faut aussi énormément de choses dans ce cadre-là. Mais c'est aussi absolument indispensable qu'ils veillent à ça, à ce que le groupe se forme. C'est pas juste mettre ensemble des personnes, c'est aussi donner des activités en vue de favoriser cet établissement du groupe. Donc c'est un brise-glace au début, c'est des briefings un peu réguliers, c'est intervenir en cas de problème et discuter avec l'enseignant partenaire pour faire en sorte que on règle le problème et que les étudiants se sentent le plus accompagnés possible, tout en sans être trop encadrés non plus, évidemment. Et je vous remercie pour votre attention.
C'est intéressant que vous finissiez par le rôle de l'enseignant, parce que j'aurais voulu vous poser la question. Donc, vous avez un petit peu dit qu'il intervient à intervalles réguliers pour redynamiser un peu le groupe, déjà le créer, donner des tâches. Vous avez parlé de l'évaluation aussi à un moment donné de votre exposé. Et enfin, ouais, comment est-ce qu'on peut le définir, du coup, peut-être le décrire plus
Le rôle de
précisément, le
l'enseignant,
rôle de l'enseignant dans cette
alors il est
situation.
multiple. Ce rôle-là, c'est celui qui va souvent. Enfin, certains prennent des télécollaborations qui existent ou s'inscrivent dans des télécollaborations créées par quelqu'un d'autre, mais il faut quand même la mettre en place. Donc, sinon, c'est de créer déjà, donc c'est de créer les tâches, c'est d'imaginer, c'est toute la planification de qu'est-ce qu'il faut faire quand, avec qui, rédiger des consignes extrêmement claires. Si c'est pas clair, les étudiants vont être totalement perdus parce que ils vont dire bah j'ai pas compris ce qui. Quand ils se sentent perdus, ils vont décrocher en fait. Donc ça, on l'a observé assez régulièrement aussi. Enfin observé à
Et
travers des études.
alors, toujours, j'imagine, orienté sur le faire de l'étudiant, c'est quelle
Pas
tâche, quelle
seulement, il y a
personne.
beaucoup la réflexivité qui est développée aussi, du moins avec ces étudiants-là. Donc c'est le Comment vous comportez-vous en groupe? Pourquoi? Pourquoi faites-vous... C'est important aussi de développer le côté interpersonnel. Pourquoi? À quoi ça va vous servir? Pourquoi ça ne marchera pas sans? Et donc, vraiment de mettre en place des activités de réflexion, voire aussi de préparation à... on sait que vous ne vous sentez pas tous à l'aise par rapport à la langue. Quelles sont les aides que vous conseilleriez aux autres? Donc, on peut aussi faire des... Enfin, c'est ce qu'on fait d'ailleurs de manière nombreuse, de mettre en place des activités préparatives, de conseillez-vous des stratégies, des outils, qu'est-ce qui peut vous aider au fait de s'entraider et de s'entraider beaucoup. Donc, tout ça, c'est aussi à l'enseignant de favoriser le fait que les apprenants se sentent à l'aise, qu'ils sachent quoi faire.
Ce qui frappe, je trouve, c'est vraiment la prédominance des aspects. Alors, je les appelle psychologiques, mais j'ai remarqué que vous n'avez jamais employé le mot. Est-ce qu'il y a une réticence face à la psychologie? Parce que toutes ces questions de motivation, de briser la glace, de dépasser sa timidité, même les relations d'amitié, c'est quand même des choses qui touchent au domaine de la psychologie.
Je pense non, il n'y a pas de
Non, pas
réticence
de
du tout. Non, je
réticence
pense
vers
qu'on
quoi?
emprunte pas mal au fait à ce domaine-là, enfin éducatif, psycho. Déjà le terme d'engagement, par exemple. Donc non, ça reste très lié. Je suis juste pas spécialiste en psy, donc je pense que
Non,
c'est pour
mais
ça que
d'accord, oui,
j'utilise pas le terme.
c'est
Mais
peut-être
oui,
pour
c'est tout
ça.
à fait présent.
Ouais, mais ça nous en donne conscience encore une fois à quel point ce facteur est essentiel, je trouve.
Et le débriefing est très important.
Ouais.
Ça va jusqu'à la phase débriefing qui reste important, très important pour l'apprentissage finalement, pour cette prise de conscience de ce qui a été fait et de ce qui a été appris.
Francisca, je crois que c'est toi. C'est bon.
Oui, alors j'avais une question d'organisation en fait, parce que je sais à Nanterre aussi, il y a de plus en plus de cours dans le cadre de coopération universitaire, il y a des collaborations qui se créent. Et au niveau de l'organisation, est-ce qu'il y a dans chaque université, il y a un cours avec un créneau attribué fixe, ou comment ça se passait pour l'organisation, justement pour qu'ils se mettent régulièrement ensemble, dans le cadre d'un cours ou c'était en dehors?
C'est effectivement dans le cadre d'un cours. Donc ça, alors ici, oui, ça s'inscrit dans le cours et les rencontres synchrones sont prévues dans le cadre du cours. Ça
Oui.
a vraiment lieu sur le créneau du cours. Mais il existe aussi des centres de langue qui proposent ça comme activité accompagnée d'un portfolio où du coup, il y a quand même un compte rendu de ce qui est fait. Ça reste plus compliqué parce qu'il faut s'il n'y a pas d'enseignant, d'encadrement plus proche ou autre, ça reste très délicat parce qu'il y a quand même le fort risque que les étudiants abandonnent. Et dans ce cas-là,
Ouais.
qu'est-ce pour ceux qui sont en face? Donc, c'est une prise de risque.
On va vraiment vous remercier beaucoup toutes les deux.